Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour le bonjour le Val de Saône, bonjour chers auditeurs de Calade, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022, journée ensoleillée aux agréables températures de 25 degrés à peu près. Ce serait dommage de ne pas sortir profiter de ce beau temps. Au programme de notre émission, on va parler fleurs sauvages, on va parler alimentation, on va parler économie, politique ou société. Pour cela, nous avons rendez-vous avec Gabriel Caramana, ethnobotaniste, Charline Simian, diététicienne nutritionniste, et le prof Patrick, économiste. Je le dis juste pour la rime, je suis pas sûr que le terme le convienne. En tout cas, en première partie d'émission, on va passer un petit moment avec notre invité du jour. C'est la semaine bleue en ce moment. Alors, c'est aussi octobre rose, c'est le mois sans tabac, c'est beaucoup de choses. Ils ont tout calé au mois d'octobre. Allez savoir pourquoi. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de la semaine bleue, semaine consacrée à nos aînés, aux seniors et à leur importance dans notre société. On va surtout parler de l'air aéré, une association qui en prend soin des seniors en milieu rural, dans le Beaujolais, en créant du lien social et en proposant moult activités. Pour nous en parler, pour nous expliquer tout ce qu'ils font, c'est Nadia Guigné, fondatrice de cette association, qui est avec nous en studio. Bien entendu, on commence cette émission en musique. On écoute Mary Clayton avec un morceau qui s'appelle Grandma's End. Nous sommes ensemble sur Clad, il est 12h14, merci d'être avec nous.
Out a warning, she said, baby, sister, don't you run so fast. You might fall on a piece of glass. Might be snakes there in the grass. Grandma's hands. Grandma's hands soothe the local unwed mother. Grandma's hands used to ache sometimes and sweat.
End, les mains de la grand-mère, c'était Mary Clayton qui nous chantait ce chouette morceau sur Calade.
Ensemble sur Calade.
On va peut-être parler de grand-mère aujourd'hui avec nous en studio. Nadia Guigné, fondatrice de l'association L'Air Aéré. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
L'Air Aéré, qu'est-ce que c'est ?
L'Air Aéré, c'est une association fondée en 2019 qui a pour vocation de maintenir le lien social et de prévenir la perte d'autonomie des seniors ruraux. Des aînés ruraux d'une manière générale.
Senior ou aîné, c'est le mot important ou pas ?
Plutôt aîné, parce que senior, ça touche des personnes qui ont souvent 55 ans et plus.
À partir de 55 ans, on est senior ?
Malheureusement, oui.
Il faudra que je le dise.
Je m'en approche. Et alors que aîné, c'est un peu plus vieux, et nous, on accompagne les personnes de 62 ans et plus.
Après la retraite ?
Oui.
Grosso modo.
Grosso modo après la retraite.
Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est important, ça je l'ai compris, mais pourquoi ?
Pourquoi est-ce que c'est important de les accompagner ?
Ouais.
Eh bien parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de préparer sa retraite correctement, parce qu'en passant d'une étape active à
la retraite,
on perd du lien social parce que en vieillissant, on peut perdre de la mobilité. Et puis aussi parce que l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, parle justement de santé comme un état de bien-être général, physique, social et mental.
Ouais.
Et donc, c'est important de travailler tous ces axes. C'est pour ça qu'on accompagne les aînés.
Ouais. Ça, c'est récent. Je crois que la santé, c'est plus que je tousse pas, je suis en bonne santé. C'est aussi dans la tête, je vais bien, je vois des gens, je me sens pas seul. J'ai l'impression que c'est récent parce que j'entends de plus en plus parler.
Alors, effectivement, quand on parle santé, en principe, on dit je vais bien, je suis pas malade,
ouais,
ou je vais pas voir le médecin. Et alors que la définition de la santé que je vous ai donnée précédemment, en fait, elle existe depuis 1946.
Ah oui, c'est pas tout neuf.
C'est pas tout neuf. C'est une définition aînée, justement. Ouais. Mais par contre, c'est relativement récent que l'on mette en avant cet aspect-là de la santé, et donc que l'on accompagne les seniors sur ces points.
Et donc concrètement, comment est-ce que vous les accompagnez ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ?
Alors au quotidien, on propose des ateliers collectifs qui sont toujours co-construits par contre avec les bénéficiaires.
Ouais.
C'est important pour nous, pour leur redonner un sentiment d'utilité et l'envie de faire. Donc ce sont des ateliers numériques, ce sont des ateliers créatifs, ce sont des balades, de la gym, enfin, de l'activité physique adaptée, de la sophrologie, de la rigologie, différents ateliers collectifs toujours.
J'ai vu il n'y a pas longtemps des photos de votre association, je crois que c'était au musée Confluence, où vous faites des sorties, simplement aller se balader et voir des choses.
Oui, alors effectivement, on a organisé une sortie sur Lyon. On a emmené un peu plus de 30 seniors avec nous, qui avaient vraiment envie de pouvoir visiter des musées comme le musée Confluence et la Sucrière. Quand on est vieillissant, parfois on ne conduit plus ou on a peur d'aller à Lyon parce qu'il y a de la circulation et on n'est plus habitué.
Ouais.
Donc c'est aussi la vocation de l'Air Aéré que d'accompagner les personnes qui le souhaitent sur ce genre de sortie.
Ouais. C'est sur quel territoire que vous agissez ? Parce que le Beaujolais, ça peut être vaste.
Ouais, le Beaujolais, c'est relativement vaste. On agit essentiellement sur la communauté de communes Beaujolais-Pierre-Doré, sur l'agglo de Villefranche, et puis un petit peu plus au nord, Beaujolais-Val-de-Saône.
Et comment ça se passe pour les aînés, les personnes concernées, pour vous découvrir et venir participer aux activités que vous organisez ?
On travaille beaucoup avec les collectivités, les mairies, les CCAS, qui relaient les informations, puisque eux connaissent les seniors qui sont dans leur commune et qui sont isolés. Ils nous mettent à disposition des salles où on se déplace avec un bus, Bobino Bus,
ouais,
sur le territoire, qui s'installe dans les centres-bourgs, dans des hameaux, pour effectivement être au plus près du public qui ne pourrait pas se déplacer.
Et ce public, on a ce critère-là, aîné, 62 ans ou plus. C'est qui en général? C'est des personnes seules, qui vivent à deux, qui...
Alors, ce sont pas forcément des personnes seules. On en a effectivement. Ça doit représenter, je pense, un tout petit peu plus de 50%. Très souvent des femmes.
Ouais.
Et puis, on a également des personnes qui vivent en couple et qui viennent aux activités, soit monsieur, soit madame, soit les deux.
Ouais.
Parce que c'est important pour eux de faire une activité ensemble. Et ça les motive. C'est aussi des couples, quand on a un couple aidant-aidé.
Oui, c'est-à-dire une personne qui a besoin d'aide pour des choses du quotidien.
Voilà, une personne qui a une maladie, souvent neurodégénérative ou autre, qui a besoin de soins quotidiens ou d'attention quotidien. L'époux, l'épouse, l'enfant, enfin, peu importe, prennent beaucoup de temps, ont besoin de souffler. Et on accompagne aussi ces couples-là, dont à la fois le répit pour l'aidant et puis des activités pour l'aider.
Je disais en introduction que c'est la semaine bleue en ce moment. Une semaine pour parler des aînés, c'est ça?
Oui, alors c'est peu, une semaine sur 52 pour parler des aînés. La semaine bleue, effectivement, elle a lieu toujours la première semaine d'octobre. Mois très chargé, en effet. Et la première semaine d'octobre, la semaine bleue, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire changer le regard des autres et le regard de la société sur les aînés et de montrer que c'est pas parce qu'on a 80 ans ou 90 ans qu'on n'est pas en mesure de chanter, de faire un défilé de mode, de courir et de faire plein d'activités qui pourraient paraître farfelues pour certains.
Qu'est-ce que vous faites de particulier pour cette semaine? Est-ce que pour vous c'est une semaine comme les autres ou...
Alors, c'est en fait, nous, la semaine bleue, elle est 52 semaines par an pour nous. Mis à part que sur la semaine d'octobre, la première semaine, on renforce un petit peu les activités, ou en tout cas, on les anime différemment. Donc là, en début de semaine, lundi, nous étions avec le CCAS du Val-d'Oin et la CARSAT pour co-animer un atelier bien-être et estime de soi. Santé mentale,
au début,
voilà, dont on a parlé au début. Hier, mardi, nous étions, il y a le marché au Bois d'Oin, et nous étions sur la place du marché, au milieu de tous les forains, pour accueillir les seniors, mais aussi tout public, pour justement parler du regard que l'on peut avoir sur les seniors et donner les informations nécessaires aux aînés pour qu'ils puissent bien vieillir à domicile.
Ouais. Y a encore des choses de prévues cette semaine
ou... Oui, alors il y a encore plein d'autres choses de prévues au Bois d'Oin avec le CCAS. Pour notre part, on se met en stand-by sur cette partie-là. Et par contre, on commence demain avec le CCAS de Glaizé, des activités qui auront lieu tous les jeudis matin. Soit un café papote, soit des ateliers de sophrologie et des ateliers sommeil, toujours dans un objectif, travailler sa santé sociale pour les cafés papotes, apprendre à se connaître, refaire sens, refaire groupe, et puis sur la sophrologie et le sommeil, travailler sa santé physique et sa santé mentale.
Atelier sommeil, l'intitulé me plaît bien, ça marche comment?
Eh bien ça marche que c'est une sophrologue qui anime ces ateliers et qui donne les techniques pour l'endormissement, ou des techniques de relaxation. On finit par dormir, effectivement. Oui, il y a une sieste à la fin.
C'est quand? C'est le jeudi à quelle heure?
C'est jeudi de 10h30 à 12h30. Il faut impérativement habiter Glaizé, je précise.
Donc je ne pourrais pas y aller. Bon, tant pis. Et puis j'ai peut-être pas l'âge. Très bien. Et je crois qu'il se passe autre chose à Glaizé le mardi prochain, le 11 octobre.
Oui, le 11 octobre à 15h. Au théâtre de Glaizé, nous organisons et nous co-animons avec le collectif Métamorphose un théâtre forum. Donc un théâtre forum, c'est des comédiens qui sont sur scène, qui jouent des moments de vie racontés par des témoignages. Et le public peut interagir et agir pour faire avancer et débloquer la situation.
Il y a un côté théâtre d'impro, j'imagine.
Alors, pas pour les comédiens. ouais, puisqu'il s'appuie vraiment sur des témoignages. Par contre, le public, ouais, pouvant agir, oui, là, ça devient un petit peu du théâtre d'impro, et c'est surtout du théâtre de cœur, puisque bien souvent, quand on interagit ou qu'on réagit à la situation, c'est qu'on l'a vécu ou qu'elle nous touche. Mmh. Et donc, on va plutôt parler avec ses tripes, et c'est ce qui est intéressant dans ce type de théâtre.
Donc, ils vont montrer des situations qui peuvent interpeller, que peut-être, je ne sais pas, choquer, se dire « Non, cette situation n'est pas normale, il faut que je dise quelque chose », c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et là, en plus, on est sur un sujet un petit peu particulier, puisque après la semaine bleue, on attaque également en octobre les semaines d'information sur la santé mentale, d'accord, qui ont lieu du 10 au 28 octobre. Donc le théâtre s'inscrit dans ces semaines d'information, et c'est effectivement le sujet, la santé mentale, okay, dans notre environnement, qui est un cercle vertueux.
D'accord. Vous pouvez nous rappeler les informations pratiques, c'est le 11 octobre
Alors, informations pratiques, mardi 11 octobre à 15h au théâtre de Glaizé. Les portes seront ouvertes à partir de 14h30 pour accueillir le public, et c'est tout public, que l'on soit jeune, adulte, aîné, ouais, que l'on se sente très bien ou pas.
Bon, et vous avez un autre rendez-vous prochainement, rendez-vous important pour l'air aéré. Ça va se passer à Lyon, c'est la Nuit du Bien Commun. Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous ?
Alors, la Nuit du Bien Commun, c'est une soirée de levée de dons qui est organisée par la Fondation de France et Obol. Ouais. Donc, à l'échelle nationale, c'est la deuxième fois que ça se réalise à Lyon. Et la particularité pour nous, pour l'air aéré, et pour moi, puisque je vais avoir la chance de pitcher pendant 4 minutes devant 1000 personnes.
Ouais.
Et je vais être un peu ras des champs au milieu de ce public-là, puisque nous sommes la seule structure hors métropole à avoir la chance de pitcher parmi les 10 lauréats.
C'est Nuit du Bien Commun. Le bien commun, c'est large. Donc, c'est des associations qui œuvrent pour aider les gens sous différentes formes. J'imagine qu'il y a plein d'associations différentes, solidaires.
Alors, on est 10 lauréats, donc 10 associations qui, effectivement, œuvrent pour les solidarités, ou en tout cas, qui mettent en place des actions pour des publics précaires, ouais, que ce soit... effectivement, des aînés, que ce soit des gens dans la rue, des enfants, des primo-arrivants. Il y a tout un panel d'associations qui peuvent...
En termes de solidarité, il y a du boulot de toute façon, donc j'imagine qu'on peut travailler sur tous les fronts.
Oui, on peut effectivement travailler sur tous les fronts.
Et donc, vous avez été sélectionnés, il y en a 10 qui ont été retenus. Et vous êtes, effectivement, c'est important de le dire, les seuls ruraux.
Oui.
Ça marche comment, la sélection ? Faut postuler ?
La sélection, c'est tout d'abord un dossier écrit que l'on remet. Ce dossier, il est ensuite analysé par le jury, qui est composé de 24 membres privés et associatifs ou fondations. De là, ils retiennent 20 candidats qui vont passer un grand oral, 4 minutes, devant 24 personnes pour convaincre. Et puis, à la fin, il y a la sanction qui tombe. Vous êtes avec nous devant 1000 personnes ou pas.
Ouais.
Et nous, l'air aéré, on a la chance d'être cette année devant, effectivement, le parterre de 1000 personnes au centre des congrès de Lyon, alors que l'année dernière, nous étions pas retenus.
D'accord. Et le grand oral devant 1000 personnes, vous l'abordez comment ? C'est impressionnant quand même. Enfin, je sais pas, moi, je trouverais ça impressionnant de devoir...
Alors, oui, bien sûr que c'est impressionnant. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, donc il y a une certaine appréhension. Mais en même temps, c'est une opportunité de se faire connaître. C'est une opportunité de parler du projet. Et peu importe le résultat, ce qui compte dans tous les cas, c'est qu'on sera gagnant parce qu'on aura pu être dans les 10 et parler du projet.
Ouais. À terme, le but de cette soirée, c'est de collecter des dons et de développer l'association et pouvoir développer de nouvelles choses.
Oui, tout à fait. Le but pour nous, c'est d'aller lever un montant non négligeable de dons pour effectivement développer nos actions et surtout élargir notre territoire. Aujourd'hui, on est dans le Beaujolais, mais il n'y a pas que le Beaujolais qui a besoin de nous et des aînés précaires ruraux, il y en a un peu plus largement. Donc l'idée est de pouvoir aller plus loin que les portes du Beaujolais.
Est-ce qu'il y a d'autres structures comme la vôtre dans le coin ? Est-ce que c'est courant, une structure rurale d'aide aux seniors ?
Non, c'est assez peu courant ce type de structure. Il y a les centres sociaux qui agissent dans la même veine, sans forcément être itinérants, et puis ils ont un public plus large. Ouais. Des structures vraiment dédiées aux seniors et qui font de la prévention mêlée à du loisir, mais avant tout de la prévention, non, il n'y en existe pas d'autres sur le territoire.
Bon, donc effectivement, vous pouvez vous développer, il y a encore du boulot, c'est ça ?
C'est bien ça.
Si on veut plus d'informations, il y a un site internet L'air aéré,
oui.
Tout simplement.
L'airaéré.org, tout attaché.
Et comme ça, on peut retrouver toutes les manifestations que vous avez au fur et à mesure de l'année.
On peut retrouver les manifestations qui ont lieu au fur et à mesure de l'année. Ensuite, on a une page LinkedIn pour les pros et pour ceux qui ont envie de nous suivre. Et on a une page Facebook également. Et puis après, on reste joignable aussi par mail sur différents moyens. Mais vous pouvez retrouver toutes les coordonnées sur le site internet, en effet.
Parfait. Merci beaucoup, Nadia Daguigné, d'être venue nous présenter tout ce que vous faites et tous les beaux projets que vous avez en cours. On vous souhaite une belle nuit du bien commun.
Merci beaucoup.
On va se quitter en musique avec... moi, je trouve que c'est l'un des artistes qui parle le mieux des aînés. C'est Aurel San. Le morceau s'appelle « Mes grands-parents ».
Des fois, ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim. Elle peut vivre 6 mois sans mettre le pied dans un magasin, parce que c'est pas donné. Un franc est un franc, même si tu changes la monnaie. J'ai cru que mes grands-parents étaient radins, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer. À l'âge où je goûtais mon premier McFlurry d'un, mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin du noble du coin. À l'âge où j'ai eu mon premier scooter, mes grands-parents plongeaient dans un ravin quand ils entendaient un réacteur. Ma grand-mère a le même téléphone que ton dealer, avec son numéro scotché dessus, même si elle connaît déjà par cœur. Mon grand-père, il roule les R, il a l'accent de son patelin, et ça ressemble bizarrement au cliché d'un accent africain. Mon grand-père a creusé sa cave à la main, il m'a déjà mis des grandes tartes en me disant « Fais pas le malin », et il a des doigts, c'est des bites. À force d'y planter des clous, des hameçons, des agrafes et toutes sortes de câbles électriques, mon grand-père a plein de phrases philosophiques qu'il répète souvent. Genre rien n'est illégal si personne est au courant. Mes grands-parents ont souvent l'air un peu flippants. C'est sûrement parce qu'ils connaissent plus de morts que de vivants. Et aussi parce qu'ils ont potentiellement tué des gens. Chez eux, il y a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment. Mes grands-mères sont magnifiques sur les photos en noir et blanc, autour desquelles il y a plein d'objets inutiles, fascinants. Mon grand-père pense que les joueurs de basket sont trop grands, qu'en cas d'égalité au foot, ça devrait jouer au corner gagnant. Quand mon grand-père a passé le permis, les feux rouges n'existaient pas, et les clignotants, c'était ses bras. Mes grands-parents croient en l'évangile, leurs enfants ont décidé de laisser Jésus tranquille. Mon grand-père utilise le mot pédé pour dire pédophile. Il s'endort entre les plats comme s'il était sous l'exomile. Mon grand-père a plus de filtre, il raconte les putes à l'armée. Ma grand-mère lui rappelle qu'à l'époque ils étaient déjà mariés. Mes grands-parents ont le disque dur qui commence à ramer. On fera passer les histoires, laissera pas la mémoire s'effacer.
J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai ouvert de nombreux sentiers.
C'était Aurel San sur Calade avec un morceau qui s'appelait « Mes grands-parents ». Je vous le passe régulièrement, mais je le trouve très très joli.
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région Apprenez à les reconnaître et à les cuisiner avec Gabrielle Caramana, ethnobotaniste et fondatrice de l'association amplepuisienne Ampliflore. Tout de suite, découverte sauvage au fil des saisons.
Bonjour, vous allez découvrir aujourd'hui une plante à qui l'on attribue des noms poétiques. Elle inspire tellement qu'elle porte de nombreux surnoms. Le plus courant chez nous est Nombril de Vénus. Et en voici d'autres: Téton de Vénus, Carinet, Coucoumel, Cymbalion, Gobelet ou encore Oreille d'Abbé. Son nom scientifique est Umbilicus rupestris. Umbilicus du latin qui signifie nombril, petit cercle, et qui serait apparenté au grec ancien umbo, qui signifie bosse. Cela pour évoquer la forme des feuilles, circulaires et déprimées au centre. Quant à rupestris, cela indique que la plante pousse sur les rochers, rupes en latin, et sur les murs en pierre, en position verticale. Voilà qui nous en dit déjà beaucoup sur cette plante vivace particulière, aux feuilles épaisses et charnues, arrondies, ressemblant à un nombril doté d'un long pétiole inséré au milieu de la feuille. Notre nombril de Vénus est classé dans la famille des Crassulacées. Les plantes de cette famille ont des feuilles généralement charnues, simples et entières. Certaines, comme le nombril de Vénus, sont dites succulentes, car elles sont adaptées pour survivre dans des milieux arides, du fait des caractéristiques du sol, du climat ou d'une forte concentration en sel. L'adaptation de ces végétaux est liée à leur capacité de stocker de l'eau dans les feuilles, les tiges ou les racines. Voici deux exemples d'autres genres botaniques très connus qui représentent cette famille. Les sédums, plantés ou spontanés, qui sont nombreux à fleurir en ce moment dans nos jardins. Et aussi les joubarbes, magnifiques plantes des toits ou des montagnes, aux formes admirables et aux couleurs vives et intenses. Avec les indications que je viens de vous transmettre et la photo du podcast, vous pourrez facilement reconnaître les nombrils de Vénus. Si l'on tient compte de toutes les caractéristiques et de l'habitat, il n'y a pas de confusion possible. La seule plante avec laquelle on pourrait éventuellement confondre serait Cletonia perfoliata. On la nomme aussi Montia perfoliata, tout aussi comestible. Comestible, notre nombril de Vénus? Mais oui! C'est une délicieuse gourmandise à manger crue sur place. Chez nous, on trouve cette plante sur les vieux murets. Il n'y a donc même pas besoin de se baisser pour la cueillir. Elle est juteuse et rafraîchissante en bouche. Ses feuilles, présentes en automne et jusqu'à la fin de l'hiver, pourront agrémenter vos salades et servir à la réalisation de petits canapés garnis et sauvages. Petit conseil, cueillez-la avec parcimonie pour le respect de la nature, pour qu'il en reste les années suivantes et pour les autres gourmets. Du côté médicinal, comme pour certains sédums, la feuille de nombril de Vénus, une fois dénudée de la fine pellicule de son épiderme, forme un pansement pour les petites brûlures ou petites coupures qu'elle aide à cicatriser. Dans les Cévennes, les feuilles fraîches de nombril de Vénus étaient utilisées pour soigner les abcès. Voilà, je vous dis à très bientôt et vous souhaite de bonnes cueillettes.
C'était Découverte sauvage au fil des saisons avec Ampliflore pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région.
Vous n'allez pas manger des choux par-ci après des tripes.
Ensemble sur Calade.
Ah, c'est pas bien bon ça.
Alimentation, santé.
Oui, il est l'heure de parler d'alimentation et de santé. Et pour cela, on retrouve tout de suite par téléphone Charline Simian, notre diététicienne nutritionniste. Bonjour Charline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ça va bien en forme?
Parfait, bon. Avec ce beau soleil, j'en profite.
Effectivement, c'est le mois d'octobre, on ne dirait pas vu le beau temps dehors. Mais du coup, c'est bientôt Halloween et je me suis dit qu'on pourrait parler de courge, de citrouille en règle générale, mais de toute la famille qui va avec.
Fameuses cucurbitacées, j'adore ce mot, je pourrais le placer dans toutes les conversations que je peux avoir. Le cucurbitacé, c'est un aliment qui est assez intéressant, notamment pour sa teneur en eau, Parce que ça permet d'avoir des produits qui sont un peu plus riches en eau que ceux qu'on va trouver associés, souvent le marron par exemple, qui est plutôt très sec. En plus, ça a l'avantage d'avoir des fibres qui sont assez douces. C'est-à-dire que pour les gens qui ont des difficultés au niveau de la tolérance des fibres, notamment de ce qu'on va trouver, les aillacées, les poireaux, les choses comme ça, là on est sur une fibre qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus facile à digérer.
D'accord.
Le fait qu'il soit orange aussi, vous l'avez avec la carotte, hein, il y a du bêta-carotène dedans, le fameux rétinol, qui va nous permettre notamment d'avoir des yeux qui fonctionnent de manière correcte.
On m'a dit que ça donnait un bon teint aussi, c'est ça, la carotte, est-ce que ça marche pareil?
Oui, effectivement, avec ces fameuses vitamines qui halent le teint. Alors il faut quand même en manger des quantités folles si on veut être vraiment bronzé, hein. Il vaut mieux s'exposer au soleil pour avoir un résultat plus bronzé, mais effectivement, ça aide l'organisme à lutter en réalité contre les agressions que peuvent procurer le soleil, et effectivement ça aide à ce niveau-là.
Très bien. Comment est-ce que ça se mange bien pour profiter au mieux des bienfaits de ces aliments ?
Alors, comme toujours, pour éviter une trop grande perte, une cuisson pas trop longue, c'est quelque chose qui est très aqueux, donc qui va être rapidement cuit finalement. Moi, je préfère toujours une cuisson à l'étouffée, quitte à laisser un petit peu évaporer par la suite, plutôt que une cuisson trop agressive ou avec trop de vapeur, par exemple, où là, on va carrément délaver le produit. Après, il y a un certain nombre de courges, notamment la courge spaghetti, qui, elle, est plutôt moins aqueuse et plutôt rigolote pour les enfants aussi. Ça fait vraiment des petits spaghettis, c'est assez rigolo. Et puis c'est, en termes de goût, assez neutre finalement, la courge. On peut vraiment l'assaisonner. On a intérêt à l'assaisonner justement pour lui donner un peu plus de goût.
Ouais, très bien. Moi, ma préf, c'est le gratin de courge. Et ça marche,
oui,
avec toutes les courges. C'est,
tout à fait.
C'est validé ou pas?
Oui, c'est validé. C'était ma deuxième option de cuisson. C'est effectivement de faire une cuisson au four, où là, on va moins agresser le produit, effectivement. Après, effectivement, ça marche avec toutes les courges, et on peut même se servir de l'intérieur de la courge pour faire le gratin. Donc, c'est toujours rigolo aussi de servir dans le contenant.
Ouais.
Voilà. Après, effectivement, on en a une grande variété. On peut même réutiliser, pardon, les graines qu'on peut conserver, et justement faire griller et servir avec un petit peu de sel à l'apéro, et ça fait un petit apéro croustillant qui est sympa.
Ah, c'est une excellente idée. C'est noté pour le prochain
apéro.
Ça m'arrive. Merci beaucoup, Charline.
Merci, Mathieu.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Bonne journée, ciao.
Ensemble sur Calade.
Allez, qu'est-ce qu'on écoute comme musique après avoir parlé de courge? On écoute The Smashing Pumpkins, ceux qui explosent les citrouilles. Voici un morceau qui s'appelle Today. Smashing Pumpkins sur Calade avec ce titre, c'était Today.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessible.
Le prof Patrick.
Oui, il est l'heure de retrouver le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Je vais parler de l'Italie.
Aïe, aïe, aïe.
Che bel paese. Mais bon, pas trop fun en Italie actuellement.
Ouais, ouais, ouais.
Il ne t'a pas échappé, Mathieu, que dimanche dernier, là, 2 octobre, il y a une coalition droite, extrême droite, qui est arrivée en tête des élections législatives. En as-tu entendu parler? Une dame qui s'appelle Giorgia Meloni.
J'en ai entendu parler, mais de loin, j'ai pas tout compris de ce qui se passait.
Ce qui se passe, c'est qu'aux élections législatives, cette coalition a gagné, mais cette coalition est largement dominée par l'extrême droite, puisque le parti de droite officiel, Forza Italia, n'a recueilli que 8% des voix, tandis que le parti Fratelli d'Italia, donc de Giorgia Meloni, en a recueilli 26%, auquel il faut rajouter les 9% de la Ligue du Nord de Matteo Salvini, qui, pour info, était au pouvoir il y a 2 ans. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, il faisait environ 30% des voix. Il est tombé à 9%. Et Fratelli d'Italia a fait à peu près chemin inverse. Déjà, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, il y a une énorme volatilité des voix dans les partis, dans les élections aux États-Unis, en Italie, pardon, et une énorme abstention.
Ouais.
Les gens sont assez désespérés, ils changent en permanence de direction de vote. Alors, je vais laisser de côté la question de la bonne façon de dénommer ce fameux parti Fratelli d'Italia. C'est-à-dire, est-ce que c'est un parti fasciste? La réponse est non. Est-ce que c'est un parti post-fasciste? Si on entend par là que c'était autrefois un parti fasciste, oui, la réponse est oui, il est post-fasciste. Mais, plus concrètement, on peut dire que c'est un parti d'extrême droite classique, très conservateur, xénophobe, très atlantiste, c'est-à-dire pro-États-Unis, et dont le nationalisme va le conduire très probablement à soutenir fortement des pays dans l'Union européenne qui ne sont pas des parangons de démocratie, c'est-à-dire la Hongrie et la Pologne.
Extrême droite xénophobe, ça ne fait pas fasciste?
Non, pas obligatoirement. Pour arriver à un parti fasciste, alors j'ai pas le temps de développer, mais si tu veux, un jour, je t'expliquerai le petit plus, ce qu'il faut en plus pour passer. En fait, il faut de l'autoritarisme, il faut une volonté de prise de pouvoir par la violence, d'annexer toutes les sphères de la société, même les sphères sociales, à travers un contrôle absolu de l'État.
Ok.
Voilà, donc c'est un peu plus méchant que ça.
J'irai revoir la définition.
Par contre, on peut noter que ce parti a eu l'intelligence de ne pas soutenir Poutine. Et ça a sans doute joué fortement dans son succès aux dépens de la Ligue du Nord de Matteo Salvini. Eh oui. Bon, vu comme j'expédie ces aspects, tu te doutes probablement, Mathieu, que je vais revenir à mon dada d'autrefois. L'économie.
Il est content,
Mathieu, il adore ça. On va s'intéresser à la situation économique de l'Italie. Comment ce pays en est arrivé à une domination si forte de l'extrême droite, au point que même la droite officielle est marginalisée? C'est simple, Mathieu. L'Italie est le pays malade de l'Europe. C'est le seul pays de l'Union européenne où les salaires ont baissé en 30 ans, entre 90 et 2020. Baisser, c'est quelque chose qui n'arrive jamais dans un système capitaliste fondé sur la croissance. Les salaires ont baissé de 3%. En France, ils ont augmenté dans la même période de 31%.
Ouais.
En Allemagne, de 34%. Donc c'est une situation catastrophique. Le PIB italien, la création de richesse, c'est celui qui a augmenté le plus faiblement depuis l'entrée de l'Italie dans l'euro, fin des années 90. Le PIB italien a même diminué depuis 2007. Ils se sont jamais remis du krach financier de 2008. En fait, les problèmes économiques de l'Italie, parce que là je parle des 20 dernières années, mais ils ont commencé avant en fait, ils ont commencé dès les années 70. Mais jusqu'à la fin des années 80, milieu des années 90, l'Italie a pu jouer sur la dévaluation de sa monnaie, on diminue la valeur de sa monnaie pour retrouver régulièrement un peu de compétitivité. C'est-à-dire que les produits à l'exportation sont moins chers, donc plus compétitifs, et donc on se rattrape comme ça. Sauf que cette possibilité a disparu avec l'entrée de l'Italie dans l'euro, hein, l'euro ne dévalue pas, évidemment. Et le fait que l'Italie soit un pays économiquement malade depuis les années 70 se voit dans l'endettement. La dette publique italienne était déjà au-delà de 100% du PIB dès les années 90, alors que les autres pays d'Europe de l'Ouest étaient tous à moins de 70%, et largement moins même. Donc, avec cette situation... alors, à l'époque, c'était pas trop gênant, en fait, que le pays soit très endetté, parce qu'à l'époque, dans les années 90, la dette était largement détenue par les Italiens eux-mêmes. Ça veut dire que le pays ne dépendait pas trop de l'étranger, tout comme la dette japonaise aujourd'hui, par exemple. Mais ça a changé petit à petit. Et aujourd'hui, la dette italienne est largement détenue par les marchés financiers. Donc là, il y a une vraie dépendance vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis des marchés financiers. Pour info, aujourd'hui, la dette italienne, c'est 150% du PIB. Je parle de la dette publique, bien sûr. La France, c'est 115%. Différence de volume quand même importante. Pourtant, l'Italie était et reste encore une puissance industrielle assez sérieuse, d'accord. Mais le problème, c'est qu'un élément important de son succès, de son industrie résultait dans ce qu'on appelle sa compétitivité prix, c'est-à-dire sa capacité à vendre des produits pas chers. Sauf qu'avec la montée en puissance des pays émergents, Asie du Sud-Est notamment, dans les années 90-2000, et l'entrée dans la zone euro, et pendant la première période, les 10 premières années, l'euro était un euro fort, donc dont la valeur pénalisait les exportations italiennes. Eh bien, tout ça, ça a été l'arrêt de mort de la compétitivité prix italienne. D'accord ? Donc, résultat, depuis 20 ans, l'Italie perd constamment des parts de marché internationales. Bon, le tableau est assez noir, hein.
D'accord. Oui, oui.
Et j'ai pas encore fini, j'ai pas abordé la situation actuelle. Mais tu dois te demander, Mathieu, bon, qu'est-ce qu'ils ont foutu les gouvernements italiens durant ces 20-25 ans, pour essayer de trouver des solutions.
Ça vient d'où cette situation catastrophique et...
Alors, ça vient d'où? Ça vient de, d'une situation médiocre dans les années 70-80 et de l'entrée, la montée en puissance des pays émergents, l'entrée dans la zone euro qui a. Globalement handicapé l'Italie, hein, c'est le pays qui s'est le moins bien sorti de l'entrée dans la zone euro. Les gouvernements, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, pour, je dirais, montrer patte blanche face à l'Union européenne, hein, parce que son endettement record, c'était très au-dessus des normes acceptées par l'Union européenne, du moins pour les pays de la zone euro, eh bien, les gouvernements italiens ont, pendant des années, dû présenter des budgets annuels, budgets de l'État, excédentaires. Tout ça pour essayer de se désendetter. Alors on fait comment pour avoir un budget excédentaire? C'est très simple, on mène des politiques d'austérité, des politiques de rigueur. Ça veut dire qu'on étrangle la demande, donc pas d'augmentation de salaire pendant des années. La demande très affaiblie, ça fait quoi? Ça fait que la croissance est très faible. Et la croissance est très faible, donc ça empêche les entreprises de réaliser suffisamment de bénéfices. Et les entreprises qui ne réalisent pas suffisamment de bénéfices n'investissent pas. Et si elles n'investissent pas, eh bien, la productivité se dégrade. C'est exactement ce qui s'est passé. La productivité de l'Italie s'est globalement effondrée depuis 20 ans. Mmh. Et ça aggrave les problèmes de compétitivité de l'industrie italienne et de l'économie italienne. On est en plein dans cette logique, hein. Je te cite par exemple, après 2010, parce qu'avant ça commence à dater un peu, le gouvernement Monti entre 2011-2013 a fait de l'austérité, le gouvernement Renzi 2013-2016 a fait de l'austérité, en 2014 Matteo Renzi sort son Job Act qui est rien d'autre qu'une politique de flexibilisation du droit du travail, du marché du travail, politique de l'offre, bref la panoplie macronienne habituelle. Tout ça n'a fait que confirmer cet étouffement de l'économie italienne et de la croissance italienne. Si on ajoute à ça, eh bien, la démographie italienne qui est en chute libre, l'Italie perd en 8 ans, ces 8 dernières années, a perdu 1,36 million d'habitants, donc ça fait autant de demandes en moins, une population en baisse. Si on rajoute à ça la coupure nord-sud structurelle qui existe depuis des décennies et qui handicape énormément l'économie italienne et l'État italien, un système éducatif très peu performant, on a un peu les explications de ces performances catastrophiques, quoi. Mais j'ai pas fini, parce que maintenant on va passer à la période actuelle. Et actuellement, qu'est-ce qu'il y a eu depuis 3 ans? Il y a eu le Covid. Eh oui, le Covid.
Et je crois que ça a été très très difficile en Italie.
Ouais, c'était le premier pays touché, très violemment touché, d'accord. Et donc en 2020, comme partout dans le monde, l'économie italienne s'est arrêtée. Donc, comme partout dans le monde, les dépenses publiques en Italie ont explosé, et donc l'endettement a explosé également. La dette publique était de 130% du PIB, elle est passée en un claquement de doigts à 150% du PIB. Voilà. Plus récemment, en 2021-2022, l'inflation.
Oui.
Voilà, l'inflation, 9% sur un an, hein, en Italie. En France, c'est plutôt 6%. Sauf que je l'ai dit, hein, les salaires augmentent très peu, voire quasiment pas en Italie. Donc, inflation avec des salaires qui n'augmentent pas, c'est du pouvoir d'achat en baisse. Puis violemment, hein, 9%, c'est du 7-8% minimum, voire 9% de perte de pouvoir d'achat sur un an. C'est énorme. D'accord. Donc, angoisse des Italiens. Ouais. Pour info, les prix des produits alimentaires ont augmenté 10,5% en Italie sur un an. Bon, c'est un peu pareil en France. Ceux de l'énergie, attention, 45% d'augmentation en un an.
Wow.
C'est 22% en France. C'est des coûts terribles pour les budgets des ménages italiens. Mais pas que. Pour les entreprises, c'est des coûts terribles, les coûts énergétiques. Et le patronat italien est extrêmement inquiet pour les mois à venir. Il craint une vague de faillite absolument terrible. Bon allez, un petit point positif dans ce tableau absolument noir de la situation italienne. L'aide de l'Union européenne, le fameux plan de relance, représente 222 milliards d'euros, donc c'est quand même pas mal, hein, d'accord ? En Italie, ils l'appellent le plan national de relance et de résilience. Ce plan est conditionné à des mesures d'investissement dans des domaines énergie verte, etc., ce qui est très bien, mais aussi conditionné à des mesures de libéralisation économique, les habituelles, politiques de flexibilisation du travail, blablabla, politique de l'offre, le truc habituel, quoi. Et ça, c'est un des axes que la coalition droite-extrême-droite a choisi, et notamment Giorgia Meloni et son parti, hein, Fratelli d'Italia, pour se différencier de ses concurrents. Non, d'ailleurs, même pas. C'est plutôt elle, Fratelli d'Italia, plus que ses collègues de la droite officielle et de Matteo Salvini, qui a choisi de critiquer fortement ce plan. Elle a dit « Moi, j'arrive au pouvoir, je vais renégocier ce plan avec l'Union européenne ». Elle est marrante, hein, Georgia.
Souvent.
On la fait rire. Vas-y, Georgia, vas-y, tu nous fais rire. Il y a à peu près 98% de chance qu'elle renégocie rien du tout. On lui offrira un carambar, histoire qu'elle ne perde pas la face, mais ça va s'arrêter là, quoi. Faut pas arriver. Donc, à part les habituels discours conservateurs, xénophobes de ce type de parti, c'est quoi qui a fait leur succès à Fratelli d'Italia? Eh bien, le point commun cette fois-ci de toute cette coalition d'extrême droite et droite, c'est qu'ils ont fortement critiqué les politiques d'austérité et pro-européennes du gouvernement Draghi et de tous les gouvernements précédents. Ok, ils proposent quoi donc? À la place, ils proposent un programme très libéral, comme c'est étonnant. Une baisse massive des impôts, censé être financé par des entrées d'argent qui seraient dues aux amnisties des fraudeurs. Les fraudeurs sont amnistiés, en contrepartie ils payent, et donc ça compense. Là on rigole un maximum, hein, parce que les entrées d'argent ça va être 3 francs 6 sous, ça va rien financer du tout. Une baisse de l'impôt sur le revenu, ils veulent passer un impôt sur le revenu, petite flat tax de 15%, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un impôt progressif qui réduit les inégalités, on passe à un impôt 15% pour tout le monde qui bénéficie aux catégories les plus aisées, bien entendu, aux plus riches. Et puis, des baisses d'impôts sur la production, des baisses de cotisations sociales, côté politique de l'offre. Donc, une politique centrée sur les entreprises et les citoyens à haut revenu uniquement. Une politique qui va accentuer le déficit budgétaire américain. Ils vont se retrouver dans la ligne de mire de l'Union européenne. Et qui, globalement, a de grandes chances de n'avoir aucun effet positif sur la croissance. Conclusion, ma chronique est donc une sorte de chronique d'une désillusion annoncée. L'Italie n'est pas prête de sortir de l'ornière. J'en ai terminé, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick. À tout bientôt. Je voulais vous passer un peu de musique italienne, mais finalement, on n'a pas le temps. Il est déjà 13h, c'est l'heure de se dire au revoir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à 12h12. Ciao, ciao. Quando facciamo l'amore, l'amore.